Il faut vraiment s'imaginer la scène. On entre dans la cour suprême du monde antique, le même tribunal qui a littéralement condamné Socrate à mort des siècles plus tôt, quoi.
C'est ça. Et pour quel motif? Pour avoir introduit des divinités étrangères. Donc la menace est réelle.
Exactement. La tension est complètement palpable. Et face à cette élite intellectuelle et super sceptique, quelle est la stratégie de défense?
Eh bien, c'est ça qui est fascinant.
Il ne cite pas une seule fois ses propres textes sacrés. À la place, il utilise leurs propres poètes locaux pour démonter leur vision du monde de l'intérieur.
C'est clair que sur le papier, c'est une approche audacieuse, enfin, presque impensable pour l'époque. Mais c'est le sommet absolu de la rhétorique antique.
C'est une vraie leçon magistrale, ouais.
Totalement. Ce qu'on a devant nous aujourd'hui en se plongeant dans les notes d'analyse du Dr Craig Kinner sur le chapitre 17 du Livre des Actes, c'est une masterclass sur l'art de la communication interculturelle.
On va vraiment observer comment une idée radicalement nouvelle, un paradigme totalement étranger, a pu être introduit dans cet écosystème intellectuel hyper fermé d'Athènes.
Et c'est tellement pertinent aujourd'hui. Enfin, on vit dans une époque de surcharge d'informations, d'opinions super polarisées, où se parler, ça devient presque impossible. Donc, décortiquons tout ça.
Avec plaisir. Et je pense qu'avant de comprendre comment il débat avec ses philosophes, il faut vraiment regarder pourquoi il est à Athènes.
Bah oui, parce que c'est pas du tout une tournée académique tranquille ou des vacances. C'est genre une fuite précipitée. Il est chassé vers le sud, littéralement. Il vient tout juste d'échapper à une hostilité vraiment féroce à Thessalonique.
Une vraie émeute, quoi.
C'est ça. Donc, il parcourt environ 60 miles vers l'ouest, jusqu'à Bérée. Il fait très attention de s'éloigner de la Via Ignatia, la grande route romaine, pour semer ceux qui veulent sa peau, en fait.
Et ce qui est fou à Bérée, c'est le contraste. L'analyse parle d'un accueil noble. Les gens vérifient ce qu'il dit, de manière empirique.
Ah oui, ils ne font pas que l'écouter. Ils confrontent ses arguments.
Ouais. Avec des rouleaux de la Torah et des prophètes copiés à la main, quand on sait à quel point un manuscrit, ça coûtait une blinde dans le monde antique, ça montre une rigueur de fou. Ils évaluent le nouveau avec des textes sérieux.
Tout à fait. C'est une méthode de recherche très respectée. Mais cette tranquillité ne dure pas du tout.
Évidemment.
Une foule arrive tout droit de Thessalonique pour le traquer jusqu'à Bérée. Et ce qui est dingue, c'est l'illégalité totale de la chose. Ils n'ont aucune juridiction là-bas.
Bah non. C'est une autre ville.
Exactement, mais leur ferveur dépasse complètement les frontières légales. Ils sèment un tel chaos que Paul est carrément exfiltré par la mer.
C'est un truc du fou. Moi, l'analogie qui me vient, c'est genre, c'est comme fuir des trolls sur Internet, tu vois, qui finissent par te doxer et te traquer dans la vraie vie avec une foule en colère.
C'est une super comparaison, ouais.
Et donc, tu te réfugies dans la plus grande et la plus intimidante ville universitaire du monde antique pour te faire oublier.
Et le voyage en mer, psychologiquement, ça a dû être quelque chose. On fuit la violence, on navigue et boum, Athènes apparaît à l'horizon.
Le géographe antique Pausanias écrit super bien ça. Depuis le navire, la première chose qui te frappait, c'était le Parthénon sur l'Acropole. Et surtout, la pointe de la lance de la statue géante d'Athéna qui brillait au soleil.
L'architecture elle-même te mettait la pression. C'était un rapport de force idéologique avant même de toucher terre.
Et dès que tu débarques, paf, des hôtels dédiés à des dieux inconnus. Le territoire est hyper marqué.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette retraite forcée va provoquer l'un des plus grands chocs culturels de l'histoire de la pensée. Paul est immergé dans un environnement qui heurte frontalement tout ce qu'il croit.
L'analyse dit que son esprit est irrité, c'est ça?
Oui, imagine la tension. C'est un monothéiste strict, convaincu que le créateur divin est unique, et il se retrouve face à une ville entière qui tourne autour de représentations en pierre ou en métal, quoi.
C'est absurde pour lui.
Totalement absurde et irrationnel. Et c'est ça qui le pousse à aller débattre sur la place publique.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il tombe sur les poids lourds, les épicuriens et les stoïciens. Athènes a peut-être perdu un peu de sa superbe face à Alexandrie, mais le prestige est là.
Ah, le prestige athénien est resté intact, c'est sûr.
Parlons des épicuriens d'abord, parce qu'aujourd'hui, le mot est hyper déformé. On s'imagine des hédonistes qui font la fête, mais c'était pas ça du tout, hein.
Pas du tout. L'épicurisme antique, c'est plutôt une philosophie de la tranquillité. Presque une façon de gérer l'anxiété face à l'incertitude du monde. Le but, c'était de fuir la douleur corporelle et le trouble de l'âme.
Donc le zéro stress, en gros.
Exactement. Et la mort, ça ne leur faisait pas peur, puisque c'était juste l'extinction de la conscience. La fin de la douleur, quoi.
Mais du coup, l'analyse souligne qu'ils pensaient que les dieux s'en fichaient des humains, qu'ils étaient trop loin. Donc s'il cherchait la tranquillité, pourquoi il s'embête à débattre avec un étranger qui prêche une nouvelle religion ?
C'est une excellente question.
Il aurait pu juste l'ignorer, non ? Pour rester zèle ?
Oui, mais s'ils s'engagent, c'est pas du tout par ferveur religieuse. Pour eux, la religion populaire, c'est utile pour contrôler les masses, mais c'est pas digne d'un philosophe.
D'accord, c'est un peu condescendant.
C'est très condescendant, ouais. En fait, ils l'écoutent par une sorte de curiosité intellectuelle très froide. Et sans doute, pour vérifier s'il est une menace pour l'ordre de la cité.
Et de l'autre côté, on a les stoïciens. Eux, c'était un peu les stars de l'époque, non ?
Oui, ils dominaient largement la pensée. Mais leur approche est très différente. Ils ne cherchent pas l'absence de douleur, ils cherchent la vertu.
L'alignement parfait, quoi.
Voilà. Ils voyaient l'univers organisé par le logos, la raison, qui structure la physis, la nature. Et un point crucial, pour eux, le temps n'est pas linéaire.
Ah oui, c'est une boucle.
Un univers cyclique qui se consume périodiquement dans un grand feu cosmique avant de recommencer.
Et c'est ce détail du feu cosmique qui va rendre l'idée d'un jugement final totalement incompréhensible pour eux tout à l'heure. Ah, c'est sûr. Mais déjà au début, le choc est là. Ils écoutent Paul et le traitent de... Attends, c'est quoi le terme ? Spermalogos.
Oui, spermalogos.
J'adore cette insulte. Littéralement, c'est un oiseau qui picore des graines. Mais en gros, ils le traitent de ramasse-miettes intellectuelles.
C'est ça, une accusation de plagiat, en quelque sorte. Quelqu'un qui glane des concepts au marché et les recrache sans aucune cohérence.
Mais le pire, le summum de l'incompréhension, c'est comment ils comprennent son message. Parce que Paul parle de Jésus et de la résurrection, qui se dit « Anastasis » en grec.
Et c'est là qu'on voit un biais cognitif insurmontable. Le cerveau d'un philosophe grec de l'époque est formaté par des dieux et des déesses souvent en couple. Ils n'ont absolument aucune case mentale pour le concept de la résurrection physique. Donc, très logiquement, pour eux, quand ils entendent ça, ils déduisent que Paul prêche deux nouveaux dieux, Jésus et une déesse nommée Anastasis.
Mais c'est fou. Ces génies de l'Antiquité, le sommet de l'intellectualisme, sont tellement enfermés dans leur système qu'ils confondent un concept théologique de base avec le prénom d'une nouvelle déesse.
C'est assez ironique, oui.
Et vu l'agitation que ça crée, ça ne reste pas sur la place du marché. Il l'embarque devant l'aréopage. Et là, on rigole plus.
Non, là, on change de dimension. L'aréopage, c'est redoutable. C'est un conseil de genre sans membres, l'aristocratie pure. Et à l'époque, ça servait entre autres de comité d'accréditation.
Pour valider qui avait le droit d'enseigner dans la ville.
Exactement. Il fallait leur feu vert. Et le poids de l'histoire est lourd, car tout le monde sait que Socrate est passé par là.
Avec la condamnation pour divinité étrangère. C'est exactement la même accusation. Même si on exécutait moins pour ça au 1er siècle, le symbole est juste écrasant.
La pression est maximale. Mais la stratégie de Paul est brillante. Il commence son exhorte, son introduction, en disant « Je vois que vous êtes très religieux ».
C'est malin, parce que le mot est ambigu, c'est ça ?
Très ambigu. En grec, ça peut vouloir dire « superstitieux ». Ce qui lui permet de garder sa conscience tranquille. Mais il sait très bien qu'eux vont le prendre comme un gros compliment.
Il les flatte et il capte la salle.
Et au lieu de sortir un rouleau de la Torah, bam, il pointe un monument local, l'autel au dieu inconnu. Ça, c'est vraiment le coup de génie. L'origine de cet autel est super intéressante. Selon l'analyse du docteur Kinner, Athènes avait connu une peste terrible dans le passé.
Et tous les sacrifices normaux n'avaient rien donné.
Rien du tout. Et c'est là qu'un certain Épiménide de Crète propose un truc radical. On lâche un troupeau de moutons depuis l'Acropole. Là où un mouton s'écroule de fatigue, on construit un autel à un dieu inconnu.
En se disant que c'est un dieu qu'on a oublié de prier qui nous punit, quoi.
Voilà. Et ça a marché. La peste s'est arrêtée. Donc ça a laissé une trace indélébile dans l'architecture.
C'est tellement fort d'utiliser ça. Il leur dit pas juste « voici mon dieu », il leur dit « Eh les gars, vos propres monuments prouvent qu'il vous manque une pièce du puzzle. Il utilise la seule faille de leur système. »
Et il va encore plus loin dans la contextualisation. Il utilise l'apologétique classique des juifs hellénisés. Il cite leurs propres autorités.
Ouais, il cite ce fameux Épiménide d'ailleurs.
Oui, un type légendaire connu pour avoir dormi des années, genre le Rip Van Winkle de l'Antiquité. Et Paul cite « En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être ».
Et il enchaîne avec Aratos, un poète de Cilicie. Et ça, c'est savoureux, parce que la Cilicie, c'est la région d'origine de Paul.
C'est un petit clin d'œil subtil.
Grave. Il leur dit « Je connais vos classiques régionaux mieux que vous ». Et la citation, c'est « Nous sommes aussi de sa race ». Il contourne totalement leurs préjugés anti-judéens.
Et philosophiquement, ça crée un pont énorme avec les stoïciens. puisqu'ils croyaient que le logos imprégnait tout l'univers, ils étaient d'accord pour dire que le divin n'a pas besoin de temple en pierre.
Donc, Paul trouve un terrain d'entente parfait. Il navigue dans ce champ de mine comme un chef, il a captivé la Cour suprême, il a établi son autorité, c'est un triomphe.
Sauf qu'il
décide de tout dynamiter. C'est le point de non-retour. Il passe de la création au jugement.
Et le mot jugement fracture tout. Un jugement final, linéaire, à un moment fixe de l'histoire, ça détruit la vision cyclique du feu cosmique des stoïciens.
Ça coince.
Mais le vrai scandale, le truc qui fait exploser la salle, c'est la résurrection corporelle.
Bah oui, parce qu'il faut comprendre le dégoût viscéral des Grecs pour la matière à cette époque. Leur concept clé, c'était soma sema.
Le corps est un tombeau. C'est l'influence platonicienne. L'âme est une étincelle divine coincée dans cette chair lourde et dégueulasse.
Le but de la vie et de la mort, c'est de s'enfuir de ce corps.
Absolument. L'échappatoire ultime.
Donc quand Paul arrive et leur dit « Le grand final de l'histoire, c'est qu'un cadavre va se reconstruire, reprendre de la chair et revenir à la vie matérielle. » Bah pour eux, c'est pas une victoire. Hein. C'est un pur cauchemar.
C'est une régression totale.
Alors là, qu'est-ce que tout ça signifie? C'est genre, c'est comme faire un pitch devant les plus gros investisseurs de la tech. T'as toute la salle avec toi sur l'algorithme, la vision, et à la fin tu dis « Ah, au fait, ce projet d'IA révolutionnaire tournera exclusivement avec des pigeons voyageurs. »
C'est exactement ça.
Ça casse l'ambiance directe. Leur paradigme est brisé. Mais du coup, pourquoi il n'a pas juste zappé ce détail? Il aurait pu garder son public s'il n'avait pas parlé du corps.
C'est le cœur du problème. Le docteur Kinner explique que Paul ne pouvait pas l'omettre, parce que la physicalité compte.
La matière n'est pas mauvaise, quoi.
Voilà. Dans la vision publique, le monde matériel est bon. Il a été voulu par le créateur. C'est pour ça qu'on doit combattre la maladie ou la faim aujourd'hui dans le monde réel. Si tu amputes le message de la résurrection du corps, tu le vides de son sens.
Il refuse de mentir sur sa technologie, pour reprendre mon image. Il choisit l'intégrité plutôt que les applaudissements. Eh ben, ça ne manque pas. La sanction tombe.
Immédiatement. Certains se moquent, ouvertement.
Et les autres sortent la fameuse politesse froide des universitaires. On t'entendra là-dessus une autre fois. Fin du game.
Mais l'analyse souligne que ce n'est pas un échec. Parce que la clarté, même rejetée, ça reste de la clarté. Et il y a des résultats concrets.
Ah oui, Denis Sipas, un membre de l'Aréopage, quand même.
Convaincre un des juges de ce tribunal d'élite, c'est une sacrée brèche dans le système adverse.
C'est énorme. Il y a aussi une femme, Damaris, qui est mentionnée.
Ça, c'est une anomalie sociologique très intéressante. Les femmes athéniennes de haut rang ne sortaient pas pour des débats publics.
Elles restaient dans la sphère privée.
Oui, donc sa présence dans l'orbite de l'Aréopage suggère qu'elle avait un statut à part. Peut-être une philosophe ou une femme affranchie des normes. Mais elle aussi, elle a su voir au-delà du scandale du soma sema.
C'est une vraie leçon d'équilibriste, en fait. Il a utilisé les outils de la culture locale pour bâtir des ponts, tout en sachant que le cœur de son message allait créer un clash.
C'est une dynamique intemporelle. Trouver un terrain d'entente, oui, mais traduire un concept ne veut pas dire le rendre inoffensif.
Tout à fait. C'est super puissant. Et ça, ça soulève une vraie question quand on regarde notre propre époque. Si l'on observe nos métropoles intellectuelles modernes, nos sociétés hyper connectées, à quoi ressemblent nos hôtels aux dieux inconnus aujourd'hui?
C'est une excellente question.
Avons-nous, nous aussi, érigé des monuments géants à des concepts de succès, de technologie ou d'algorithmes qu'on adore aveuglément, sans vraiment les comprendre, en attendant juste que quelqu'un vienne enfin révéler le vrai nom de ce qu'on a construit? Ça fait réfléchir.